Vous écoutez France Culture.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. Après la série concernant la partie patrimoniale, les expositions qui se trouvent à Paris, le livre d'Oleg Grabar sur... on a insisté beaucoup sur l'aspect image, justement, dans les traditions d'islam, où la présence d'ailleurs iranienne était au centre, puisque le patrimoine lui-même signale ce privilège pour l'Iran, et au-delà de l'Iran, l'influence de l'Iran en Asie centrale, un aller-retour dans l'histoire. Là, nous allons nous consacrer cette émission essentiellement à la photographie, photographie surtout évidemment de l'Iran, mais pas seulement, puisque nous profitons de la présence de Anaïta Gabayan Etehadieh, vous qui êtes galeriste à Téhéran, votre galerie de photographie Silk Road Gallery, vous avez été aussi la directrice artistique d'une série de manifestations, notamment la Biennale Photoké, l'exposition au Quai Branly 165 ans de photographie iranienne et l'exposition 1979-2009, la photographie entre l'espoir et le chaos, toujours des photographies qui nous viennent d'Iran. Et notre second invité, Yves Le Sur, vous êtes le directeur du département du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly, et le Quai Branly a eu un rôle majeur pendant l'automne dernier sur cette présence de la photographie. Vous-même, vous avez organisé une exposition, nous y reviendrons, en puisant dans le fond de votre musée. Le rôle, vous attachez une très grande importance, vous avez une collection de photographies très importante et des acquisitions récentes majeures.
On a en effet un fonds extrêmement important, puisque ce fonds couvre pratiquement toute l'ethnographie et l'anthropologie française depuis le début de la photographie. On a des daguerréotypes et très très vite on s'aperçoit que les voyageurs sont allés sur place faire des photographies dans le monde entier dans des conditions tout à fait extraordinaires. Et nous avons aux environs de... Alors, on est en train de le chiffrer exactement, mais on est entre 700 000 et 1 million de documents. Alors après la question, c'est de savoir quel statut on accorde à un document ou à une photographie. Voilà, c'est l'enjeu intellectuel majeur qui fait que le musée du Quai Branly a une attention tout à fait particulière sur la question de la photographie et de l'image de l'autre, évidemment, et aussi continue d'enrichir son patrimoine avec des photographies anciennes, mais aussi est très, très attentif à la photographie contemporaine, d'où cette manifestation
Photoké.
D'où cette manifestation Photoké qui est emmenée, impulsée, organisée par Hélène Cerruti-Fulgence et son équipe. Donc la première manifestation a eu lieu en 2007.
Vous avez décidé d'en faire une biennale pour la photographie des autres, qui est dans la vocation de votre musée.
C'est une biennale, donc la première a eu lieu en 2007 et elle a été consacrée comme celle-ci aux artistes photographes émergents. Sachant que la pratique de la photographie, c'est une pratique qui, dans de nombreux pays, est peut-être plus souple, plus facile, plus immédiate que pratique d'installation ou de création de sculptures ou de peintures, etc. Et on a vu émerger comme ceci un certain nombre d'artistes qui pouvaient avoir d'autres métiers ou dont la photographie n'était pas le revenu principal, évidemment, et qui pouvaient être dans le domaine du journalisme, de la documentation, de la photographie de mariage, de la photographie d'identité, et qui pouvaient avoir une œuvre. Donc, c'est d'une part ces photographes émergents, mais ça, Anaïta, donc, qui a organisé ce photoquai en parlera mieux que moi. C'est aussi des photographes qui sont peut-être un peu moins connus en Europe, et même s'ils sont s'ils ont déjà une relative renommée dans leur pays. Donc on fait aussi des acquisitions régulièrement. C'est une problématique que l'on suit de très près, oui.
Il y a parfois même des scénographies. Cette photo-là que vous avez mis en exergue, si j'ose le terme, dans le catalogue Photoquai, qui est une coédition du musée de Quai Branly et d'Actes Sud, d'un de vos compatriotes, Gohar Dashti, où il y a une mise en scène très ironique dans une carcasse d'une voiture en mime un mariage, un couple oui. de mariés avec des rubans autour de cette voiture en carcasse, et en arrière-fond, nous avons de multiples carcasses, dont un char, des restes de guerre. Comment vous avez reçu des photos de ce type-là, comme celle de Gohar Dashti, Yves Le Fur?
Si vous voulez, pour revenir au processus de sélection, il a été très clair dès le départ qu'il s'agissait non pas d'aller vers des questions d'idéologie ou d'actualité, mais d'aller vers ce qui fondait une qualité photographique et une qualité de création. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Au départ, on en a aussi beaucoup parlé pendant les nombreuses discussions que l'on a eues dans ce comité. Et ce qui nous intéresse en fait avec cette deuxième édition, c'est de montrer d'une part la vitalité d'une création photographique dans
mondial.
Le monde mondial, et aussi une qualité spécifique à ce que pourrait être une création photographique iranienne ou une création photographique mongole ou de Nouvelle-Zélande.
Ou du Kazakhstan, là. Une très très belle photo de Saïd Atabekov, un triptyque qui est étonnant parce qu'il fait voyager en même temps. Là.
C'est le piège que l'on veut absolument éviter, c'est l'exotisme. C'est au contraire de montrer comment, par exemple, un Chinois peut ressentir et peut créer une image de son environnement, ou comment...
Ce qui vient de Chine, on a l'impression que le souci premier, c'est vraiment l'écologie et les espèces de catastrophes industrielles, en somme, qui sont très présentes.
Oui et non, parce que ça peut être une sensibilité particulière, par exemple, à la représentation du paysage. Ça peut être une sensibilité particulière à la représentation de la ville, voire en effet aussi de la violence. Mais cette violence, elle peut être mexicaine, elle peut être argentine, elle peut être d'Afrique du Sud. Ce qu'on ne voudrait pas, si vous voulez, c'est Family Hoffman. C'est-à-dire, c'est cette exposition, vous savez, qui recensait les différents dans les années 50 et qui a voyagé dans le monde entier et qui montrait une image de l'humanité avec des portraits noirs et blancs qui a inspiré énormément d'ailleurs de photographes et qui était une vision totalement occidentale du reste du monde. Ici, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on veut que ça vienne de la part des artistes, avec leur sensibilité, leur préoccupation. Ça peut être, par exemple, une préoccupation, je trouve, moi, qu'il y a beaucoup dans l'exposition, de soucis autour de l'environnement, de l'écologie.
Le travail sur l'identité, parfois. J'aime beaucoup ce travail d'une photographe tunisienne sur justement la substitution des figures d'autres ethnies, d'autres lieux, et chaque fois une volonté de répéter et le geste de se représenter à la place d'eux. Ou alors le travail de deuil aussi qui apparaît très fort chez une photographe, Lamia Nagi, je crois, photographe marocaine. Nous insistons un peu plus sur les originaires de pays islamiques, puisque nous sommes dans culture d'islam, mais en même temps, ça déborde totalement l'islam en tant que tel.
Oui,
c'est-à-dire, il participe de problématiques générales, que ce soit, comme vous dites, l'environnement, l'écologie, ou la question de l'identité, non pas comme quête de l'origine, mais comme théâtralisation de l'identité, en fait, comme mise en jeu et mise en cause, peut-être.
Mais comme le dit Yves, ce qui a primé dans le choix que nous avons fait pour chaque série que nous avons montrée dans cette sélection, c'est la qualité artistique. C'est-à-dire que si la qualité artistique n'était pas là, de toute façon, la série était d'office éliminée. C'est une exposition de photographie. C'est une exposition de photographie. Ce n'est pas du tout une exposition des événements récents. Ce n'est pas du tout l'actualité qu'on a essayé de mettre en avant. Mais quelque part, du fait de faire venir ces gens-là du périphérie, on a obtenu pas mal de, justement, de...
La notion de périphérie disparaît, d'ailleurs, parce qu'on a tout simplement affaire à des artistes venant de la non-Europe et du non-Occident, mais qui sont en résonance totale avec l'Europe et l'Occident, et qui sont participants à un art qu'on peut appeler art international.
La notion de périphérie, elle est intéressante.
Vous l'annulez, là, oui. Elle s'annule.
Oui, mais en quelque sorte, c'est un jeu de mots. Ça ne me gêne pas. Je viens du périphérie. Je veux dire, c'est pas gênant. Ce n'est pas du tout péjoratif. C'est pour pouvoir dire qu'il y a des images qui sont montrées régulièrement ici en France et en Europe, que tout le monde connaît. Mais nous, on a été chercher des artistes qui vivent dans les pays non occidentaux. Mais alors, les pays non occidentaux, comment on les définit? Je veux dire, le Canada, c'est quoi? Le Japon, c'est quoi? On ne sait pas comment appeler ce rassemblement de pays, mais peu importe le nom qu'on leur attribue, le fait est qu'il n'y a pas un Français qui pose un regard, par exemple, sur les coutumes d'un Chinois. C'est le Chinois qui raconte sa propre histoire. C'est le Kazakh qui raconte son histoire.
Ou l'Afghan, Fardin Waizi.
Exactement. Chacun raconte son histoire.
Des photos très belles, d'ailleurs, celle de l'Afghan, là, très âpre.
Je crois que ce qui est important et qui est au fondement même de la philosophie du musée du Quai Branly, c'est ce décentrement, en fait. C'est-à-dire que avec cette manifestation, on décentre en permanence le lieu de création, si vous voulez. Et j'en veux pour preuve une autre manifestation que l'on fait, ce qui est les résidences d'artistes. Donc chaque année, j'en profite pour faire un appel, chaque année on reçoit un certain nombre de dossiers d'artistes donc dans la photographie contemporaine qui viennent concourir en quelque sorte pour obtenir une résidence que le musée du Quai Branly octroie pour un certain nombre de mois, 3 mois, 6 mois, pour des artistes non occidentaux émergents aussi. Et cette résidence peut se faire à Paris ou elle peut se faire sur place. Par exemple, dernièrement, il y a Uchi qui est un photographe chinois, a fait une résidence dont le sujet était les catholiques en Chine. Donc, il a fait cette résidence sur place. Et quand je parle de décentrement, c'est un exemple où on a non seulement la Biennale Photoquai, mais on a aussi ce type d'initiative d'aide à la création.
le chemin qui mène à Rome, Saïd Atabekov du Kazakhstan, que j'ai cité tout à l'heure, en triptyque, une femme qui traverse la steppe dans un costume, une scénographie, tenant un flambeau, et puis après, ce qui semble être un costume de même nature, sinon le costume qu'elle portait, qui pend sur un fil, et la troisième position, un homme en tenue de jogging, si j'ose dire, mais avec un énorme croissant. Corne, à la fois croissant, à la fois corne, on a l'impression qu'on a affaire à un croissant transformé en corne de Minotaure qui porte à la fois Sisyphe, Minotaure, la forte présence de la steppe. Il y a du mongol, il y a du nomadisme, il y a l'esprit de la conquête, des conquérants historiques qui passent tous par là et en même temps on est totalement dans notre temps.
C'est une tenue, il s'agit d'une tenue militaire avec de la soie à l'intérieur. Donc il y a encore une fois cette dualité, la guerre, mais pas tout à fait la guerre. Elle est derrière ou alors elle est devant, mais elle n'est pas très loin.
Et alors le choix aussi étonnant et très original du lieu de l'exposition de... Le quai Branly, photoquai, c'est dehors, le musée déborde, n'est-ce pas ? Voilà, déborde vers les berges de la Seine, n'est-ce
absolument,
pas ?
Le musée déborde, c'est une très belle expression. À l'origine, c'est une manifestation qu'on a voulu gratuite, accessible donc à tous, et c'est une manifestation que l'on a voulu aussi en liaison avec d'autres institutions. Donc on a fait cette installation qui a été magnifiquement designée et construite par Patrick Join et sur les quais. Et ensuite, on avait la passerelle de Billy, le pont, et puis un certain nombre de
quai entre Alma et...
Voilà, entre les deux rives, hein,
les
disons.
Les deux rives, oui. Les deux ponts, le pont d'Alma et l'autre pont, voilà, comment il s'appelle.
Et l'autre pont, on va dire Alexandre. C'est l'autre pont. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir fait contribuer d'autres institutions à cette manifestation, que ce soit dans le domaine des musées, mais aussi des institutions qui s'occupent de la photographie, comme la Maison européenne de la photo ou la Bibliothèque nationale, etc.
Alors, certains galeries même ont profité de l'occasion pour montrer leurs artistes.
Très important aussi, et il participe vraiment volontiers à la manifestation, sur les centres culturels du Japon,
du Canada,
donc cela varie en fonction des biennales, mais c'est très important, l'ambassade d'Australie, etc. Et c'est ce lien que l'on a voulu créer qui est aussi à l'origine de la biennale Photoquai.
Et deux artistes iraniennes, Shadi Gadirian et Shirin Neshat, qui ont montré des expositions chez leurs galeristes, alors, d'une manière contemporaine.
Oui, alors l'exposition de Shadi Gadirian qui a eu lieu à la galerie Baudouin-Lebon était en partenariat avec Photoquai, mais Shirin Neshat a exposé dans sa galerie parisienne, mais je crois que le moment tombait bien, c'était en même temps que Photoquai. Il n'y avait pas du tout de partenariat avec cette galerie, mais c'était très bien aussi, parce que c'était dans l'air du temps un peu.
Ils ont tiré avantage de la conjoncture, disons. Ah, alors, tout à l'heure, on rodait autour d'une notion, m'a-t-il semblé, Yves Le Fur. Il y a du croisement dans tout cela. Je crois que vous avez parlé d'une notion importante, celle de décentrement et aussi celle de croisement. Et une exposition que vous avez conçue vous-même, sous le titre de Portrait croisé, au pavillon des sessions au musée du Louvre, c'est-à-dire cette partie où vous montrez des chefs-d'œuvre de votre collection, qui, mais cette décision importante de montrer ces arts-là, je ne sais plus comment vous les appelez maintenant, ce qu'on appelait jadis les arts primitifs. On a testé les arts premiers, mais toujours entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle appellation dans l'effervescence du laboratoire, à l'intérieur du laboratoire, mais bon, la décision d'en faire, de montrer ça comme des œuvres d'art, comme les arts occidentaux, ou reconnus par l'Occident lorsqu'il s'agit d'archéologie et cette dignité-là qui est présente au Louvre. Et vous avez conçu cette exposition Portraits croisés, des photographies de votre collection du musée du Quai Branly du 19e siècle jusqu'à des photographies des années 50, d'un certain nombre, certains anonymes, d'autres de très grands photographes ou de très grands anthropologues photographes, ethnographes photographes, voyageurs photographes, avec en vis-à-vis avec des œuvres, avec des sculptures.
Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler les atermoiements des appellations des arts qui ne sont pas européens.
Et européens ou n'appartenant pas à de grandes civilisations, disons.
Oui.
Le vernaculaire.
De grandes religions. Ces atermoiements, en fait, sont tout à fait significatifs de notre... D'une certaine difficulté en quelque sorte à désigner ces arts. Et on a un petit peu la même chose, on en a un écho dans la difficulté et les hésitations que l'on a vis-à-vis de la photographie. Alors il se trouve qu'en effet, par rapport au fond très très important de près de 700 000 à 1 million de documents photographiques qui servaient de documentation réellement auparavant. C'est-à-dire que c'était de montrer comment les Hmongs étaient vêtus, comment les Papous faisaient la cuisine, etc., quel type de construction ils pouvaient faire. Et petit à petit, on a fait glisser, je parlais tout à l'heure de décentrement, mais ça, c'en est un exemple, on a fait glisser ces photographies vers le statut d'œuvre, puisque peu à peu, grâce aux chercheurs, aux conservateurs, dont par exemple Christine Barthes, Karine Pelletier, au musée du Quai Branly, on a petit à petit retrouvé des noms, mis en avant des créations. Alors, par rapport au pavillon des sessions du musée du Louvre, qui est
la porte des lions.
Qui est cette partie du Louvre qui présente les arts non occidentaux en grande zone, hein, Afrique, Océanie, Amérique, Asie, etc. Par rapport à cette sélection de chefs-d'œuvre, on a. J'ai un petit peu décidé de, en mettant à côté, en résonance, en correspondance, des photographies de ce fonds. Alors, comment faire ? Parce que la photographie, d'une certaine manière, se pose comme une sorte d'image relativement ennuyeuse par rapport à d'autres arts, dans le sens où elle déterminerait une objectivité et elle dirait quelque chose du réel. Or, on sait justement par rapport à cette historique que, par rapport à ces photos historiques, que ces photographies sont déjà l'objet d'une construction. Construction idéologique, esthétique, etc. Donc par rapport à ça, si vous voulez, j'ai décidé de créer un désordre.
Un exemple, la très belle photographie, très surprenante de cette femme voilée. On parle beaucoup de burqa en ce moment en France. Ce n'est pas exactement une burqa, il y a un très très beau... manteau au-dessus d'un voile noir qui cache complètement la face. Ça vient, je crois que c'est une photo du Kraft, si je ne me trompe pas, oui. de ce très très beau voyage, ce livre qu'il avait publié, un voyage au Turkestan, si je ne me trompe pas, ou
Oui, et c'est et donc
et alors vous l'avez mise face à une photo, face, je veux dire, à une sculpture qui est censée représenter un visage, mais complètement effacé, sans le moindre trait.
C'est une sculpture Taino. C'est une sculpture.
L'éclipse de la face, comme ça, sont.
C'est une sculpture.
Elle se retire la face. Elle est voilée dans l'une et elle se retire dans l'autre.
Si vous voulez, c'est même pas une face.
C'est quoi cette
la sculpture Taino, c'est une hache. C'est pas une face.
C'est étonnant.
C'est pas une représentation.
Mais ça se reçoit comme une face.
Mais si vous voulez, le fait d'avoir mis cette femme voilée
au visage totalement disparu,
au visage effacé, par rapport à cette sculpture qui est présentée quand même comme si c'était une sorte de face. De face complètement lisse et complètement aveugle, crée entre les deux un dialogue qui fait qu'on va prendre l'une pour une face et l'autre face comme une surface lisse et une surface effacée.
Et derrière cela, évidemment, on peut imaginer les possibles que recèle la sculpture pour un Brancusi.
Si vous voulez, ce qui s'est passé, je vais vous avouer quelque chose. J'ai fait cette exposition demandant une sélection de très beaux portraits faits par...
Ils sont magnifiques, les portraits.
Faits par Christine Barthes et Karine
Il y a une belle résonance de dignité aussi, on le dit en passant.
Voilà, oui. Donc ils m'ont choisi des très très belles pièces que j'ai commencé à mettre en relation et j'ai fait ça très vite. Parce que, voilà, on est toujours pressé dans tout ce qu'on fait, etc. Et dans ce désordre, cette espèce de dispersion poétique, si vous voulez, c'est le fait d'avoir jeté comme ça ces images, il s'est réellement passé quelque chose. Ce qui fait que la photographie n'est plus quelque chose qu'on doit reconnaître parce que ça serait l'illustration, une fois de plus, ou le document de quelque chose parce que telle pièce du Vanuatu...
Confirmation d'une même origine, ou d'un même espace.
Voilà,
il s'agit point de cela.
Ou une contextualisation, cette recherche toujours vaine, en fait, d'une contextualisation. Et au contraire, ça a été au service d'une vision. Et cette différence, ce jeu d'écart, ce jeu de décalage, a été d'une fécondité telle que je suis en train de le continuer sur d'autres œuvres et sur d'autres hypothèses, en quelque sorte. Et en permanence, ça m'apporte une sorte de récolte incroyable de résonance. Parce que je crois que nous fonctionnons comme ça. On essaye sans arrêt de fonctionner dans une sorte de cohérence, alors que le monde est divers. On est dans une dispersion permanente de signes, d'œuvres, d'émotions, de sentiments, de connaissances.
Dans l'hétérogène.
Dans lesquels on essaye de se frayer un chemin. Et le plus beau des chemins, je crois que c'est celui de la poésie, c'est-à-dire c'est celui qui nous conduit quelque part en nous émouvant, mais pas forcément en rentrant dans les catégories dans lesquelles on attend d'être. Et cette exposition, elle est amusante. Bon, parce que quelquefois, on a une image ici. Il y a une maternité Dogon qui est rouge, qui est très très belle et dont le visage est relativement, encore une fois, effacé. Mais la tête de l'enfant n'est qu'un volume, si vous voulez. Il n'y a pas de trait que j'ai mis en relation avec une très belle photo d'une femme indienne qui posait devant les anthropologues physiques qui faisaient les reconnaissances pour avoir chacun tous les types existants sur le monde. Donc une indienne qui pose avec son enfant et qui sourit au photographe, et à ce moment-là l'enfant bouge et ça crée un flou parce que les temps de pause évidemment étaient longs. Et dans ce flou qui répond à l'absence de visage,
à l'informe, quoi,
au non-forme,
oui, à l'amorphe.
à quelque chose qui est comme l'enfant en train de se former, quelque chose aussi qui est dans le hiératisme des deux mères qui se répondent, mais hiératisme serein, il y a quelque chose après qui se crée et on va de l'un à l'autre comme ça, il y a une série, il y a tout un tissu en quelque sorte, tout un réseau de correspondance qui se lie et qui nous fait nous font redécouvrir les œuvres.
Maintenant, je me tourne vers vous, Anaïta Gabayan Etehatié, quel joli nom, je dois dire, je le prononce en entier. Vous avez été directrice artistique de Photoké, mais aussi commissaire pour deux expositions concernant cette fois la photographie en Iran, 165 ans de photographie en Iran, une exposition qui a été abritée dans la maison à la gestion de laquelle participe Yves Le Sur, Quai Branly, et une autre exposition, cette fois-ci un peu plus en aval, 1979-2009, entre le chaos et l'espoir, la photographie en Iran.
30 ans de photojournalisme.
Photojournalisme, donc là, c'est la Monnaie qui accueille cette
exposition. Oui, c'est la Monnaie de Paris qui accueille cette exposition à partir du 6 novembre.
Venons-en à celle du Quai de Branly, surtout cette partie magnifique, et je vous avoue qu'on est un peu frustré parce qu'on eût aimé qu'il y ait une expo que pour cela, les débuts de la photographie en Iran qui sont très précoces, dès les années 1840, et l'entrée de deux daguerréotypes, des présents royaux au Shah Qajar de l'époque, une de la reine Victoria et un autre daguerréotype de Nicolas Ier.
Oui.
Donc Russie, Angleterre, derrière le daguerréotype, il y a de la géopolitique, si j'ose dire.
Oui. Ce roi iranien, Nasiruddin Shah, s'est passionné pour la photographie. Il est quasiment le premier à avoir introduit la photographie en Iran.
Il a été lui-même photographe et collectionneur.
Oui.
Et incitateur à photographier.
Exactement. Mais il est tombé amoureux de la photographie. Il avait deux appareils photo qu'il ne savait pas faire fonctionner et des étrangers, des non-iraniens, ont commencé à le faire pour lui.
Un Français d'ailleurs, Richard,
oui,
non
oui. Jules Richard. Jules Richard. Oui. Et donc, il a encourager ses enfants à faire de la photographie. Il a trouvé des photographes professionnels qui sont allés dans les villes de province pour faire des photos pour lui. Et il a constitué comme ça une archive très importante qui existe toujours, qui est l'une des archives les plus importantes du monde, qui est conservée dans un musée dans le sud de Téhéran, le palais de ce Shah, le palais Golestan. Mais pour le moment, il est impossible de faire sortir ces images. J'espère qu'un jour,
c'est un musée, on peut les voir sur place.
On ne peut pas voir toutes les images, mais il y a de temps en temps de petites expositions dans ce palais-musée et on a parfois l'occasion de voir certaines images.
C'est étonnant, mais cet amour de la photographie les rois. Ce sont partout des rois qui ont introduit la photographie. Don Pedro au Brésil, l'empereur. Même chose dans la Turquie proche, la problématique est proche. On est dans une volonté de réforme, dans un désir d'occidentalisation. Et la photo a joué un rôle majeur en Turquie aussi, auprès des sultans.
Oui, en même temps, le roi est celui qui a les moyens de...
Mohamed Ali en Égypte aussi, vous savez, un des tout premiers daguerréotypes, c'est Horace Vernet a fait pour quelques daguerréotypes. Et à partir des daguerréotypes, il avait procédé à des gravures. On a une gravure du palais des femmes de Mohamed Ali à Alexandrie, d'Horace Vernet, qui date exactement des mêmes périodes, de 1842.
Oui. Alors, ces images feront, j'espère, un jour l'objet d'une exposition. Pour le moment, ce n'est pas le cas parce qu'il est impossible de les faire sortir.
Déjà, autrement, le peu que vous nous montrez met de l'eau dans la bouche. Voilà.
Oui, exactement. Ces images appartiennent en partie au musée, au fond du musée du Quai Branly, et l'autre partie appartient à collectionneurs privés, mais nous avons vraiment bon espoir de les faire sortir un jour et de les montrer toutes ces images. Mais comme vous dites, c'est un bon début. Je pense que c'est une bonne introduction et ça dit, ça parle de justement l'arrivée de la photographie en Iran, qui coïncide à peu près à l'arrivée de ce médium ailleurs, également en Europe.
Ça a passionné très vite la photographie. Et vous insistez dans les textes qui accompagnent les publications faites à l'occasion de ces deux expositions sur le fait que ces débuts photographiques, malgré tout, procèdent d'une iconographie particulière. On n'est pas dans un regard tout à fait... comme ferait un photographe occidental de l'époque.
Non, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'objets qui montrent que ces images ont été réalisées en Iran, que ce sont des Iraniens qui posent. Et au début, les femmes et les hommes sont habillés comme ils étaient habillés à l'époque. Et puis petit à petit, c'est l'époque où Reza Shah arrive au pouvoir.
Ça, c'est un peu plus tard.
C'est dans les années 20.
Dans les années 20, avec la carte d'identité.
Il a participé
à l'universalisation de la photographie.
Oui, exactement. Mais il avait avant tout...
Et la multiplication des studios, non ?
Oui, Reza Shah avait une volonté de moderniser le pays et l'un des signes les plus éloquents pour cette modernisation est bien sûr la manière dont s'habillent les femmes et les hommes. Et petit à petit, dans l'évolution de cette exposition, on voit que les femmes ne sont plus habillées avec leur tchador noir, ni les hommes avec leur turban et leurs habits qui ressemblent beaucoup aux habits des religieux, mais ils sont habillés à l'occidental. Et même les objets changent de forme et on voit des images qui se rapprochent beaucoup de celles qu'on peut voir en Occident.
Vous attachez beaucoup d'importance à un photographe qui semble avoir été majeur dans l'évolution des styles et du regard en Iran, Antoine Sevregouin, qui est d'origine russe.
Oui, il est d'origine russe, arménienne. Et en fait, Sevregouin est celui de tous les photographes qui ont travaillé à l'époque de Nasser Eddin Shah. Il est celui qui a pu envoyer ses images à l'extérieur. Alors, il y a eu plusieurs expositions de ses œuvres. Il y a eu une exposition à Washington, au musée Sackler de Washington, de ses photographies. Il y a eu d'autres expositions en Europe. Les autres photographes d'origine iranienne n'ont jamais eu l'idée d'envoyer les images à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle presque tout ce qu'on voit de cette époque sont les images réalisées par Sevregouin. C'est un personnage important, même s'il n'est pas iranien, c'est le personnage important de cette époque-là.
Très belle photo d'une famille à Téhéran, par exemple. Très étonnante, je dois dire, avec ses regards. Il y a l'intensité du regard de tous. 5 personnages, le père qui est au milieu en tenue traditionnelle, turban et...
Mais c'est un phénomène nouveau en Iran. Quand il réalise ces images, personne d'autre n'avait fait ce genre de choses. Les gens découvrent l'intérêt d'immortaliser leur propre image, d'avoir ces images chez eux.
C'est en studio, visiblement.
Oui, c'est en studio. Oui. C'est le début, justement, des pièces d'identité avec photographie obligatoire. Et les gens ont découvert petit à petit qu'il était aussi possible de faire des photographies et de les poser sur la cheminée comme souvenir de famille.
Et alors, l'évolution par la suite, le rôle de la photographie comme document qui accompagne la politique, les crises, les révolutions, les manifestations.
C'est-à-dire que ce qu'on a voulu montrer par cette exposition, c'était que la photographie est arrivée à la fin du 19e siècle et en même temps qu'en Europe. Ça a continué tant bien que mal au début des années 20 et puis pendant très longtemps, on n'a plus entendu parler de la photographie. Elle revient sous forme de photos de plus ou moins artistiques, de photographies artistiques dans les années 60 par très très peu de photographes, y compris celui qui est montré dans cette exposition qui s'appelle Ahmad Ali. Et après, c'est encore en quelque sorte un silence total jusqu'à la révolution de 1978 et 79. C'est à partir de ces dates justement que la photographie iranienne prend de plus en plus d'importance. Il y a des photographes professionnels qui sont formés.
Plus encore, il y a même l'enseignement à l'université de la
L'enseignement à l'université arrive...
Commence en 1980, je crois.
Oui, dans les années 80, mais déjà en 78, les photographes, ceux qui s'intéressent à la photographie, détiennent un sujet de prédilection. Et le monde regarde vers l'Iran, c'est un événement très important. Il y a les agences de presse qui s'intéressent à l'Iran. Il y a des photographes professionnels non iraniens, étrangers qui arrivent en Iran et les étrangers les imitent, commencent à prendre des contacts avec les agences de presse. Et en fait, la photographie iranienne, pour moi, commence vraiment à cette époque, à partir des années 78-79, et puis avec l'enseignement de la photo dans les années 80. Et c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle, étant donné que les photographes couvrent les événements importants politiques, c'est-à-dire la révolution iranienne, puis la guerre Iran-Irak, il y a beaucoup plus pour moi de photojournalistes pendant cette période qui se forme que de photographes qui s'intéressent à la photographie plasticienne. La photographie plasticienne arrive en fait à la fin des années 80. Plutôt au milieu des années
90. Il y a des photos
90.
Terribles de encore Kaveh Golestan que nous avons cité tout à l'heure sur les enfants, enfin des jeunes, 14 ans peut-être.
Oui,
hein,
oui, les enfants soldats de la
soldats
guerre Iran-Irak.
De la guerre Iran-Irak, oui, c'est vraiment terrible. Nous avons là une photo d'un garçon de 15 ans, disons, avec son fusil dans un trou, concentré à lire le Coran sur le front.
Plusieurs milliers de jeunes gens se sont fait tuer justement pendant la guerre Iran-Irak.
Et la photographie témoigne de cela.
La photographie témoigne de cela et le phénomène qui a eu lieu pendant cette période, c'est que c'est après la prise de l'ambassade des États-Unis par les Iraniens et plus aucun étranger ne met les pieds en Iran. Il n'y a pas de visa d'attribué et personne n'ose venir en Iran de toute façon. Ce qui fait que la guerre Iran-Irak a été photographiée uniquement par les Iraniens. C'est là que les Iraniens se forment vraiment. Ils prennent leurs appareils, ils savent qu'il n'y a plus qu'eux et ils ont immortalisé justement les images de cette guerre.
Et il y a aussi cet autre élément important d'un certain nombre de photographes reporters iraniens qui vont quitter l'Iran et qui vont devenir de très grands noms dans le reportage international. Nous pensons notamment à Abbas. D'un côté, pour ce qui concerne le reportage stricto sensu, le reportage surtout de l'actualité, des événements, des violences particulièrement en pays d'islam, et Reza pour ce qui concerne le reportage, le voyage, particulièrement ce très long voyage en Asie centrale, disons de la Turquie jusqu'à la Chine, et tout le travail qu'il avait fait pour National Geographic.
Abbas a quitté l'Iran quand il était très jeune. Il n'a pas quitté l'Iran à la suite de la Révolution. Il était installé en France déjà avant la Révolution. Il est allé en Iran, il a fait des photos. Quand je discute avec lui, il dit que la Révolution iranienne l'a beaucoup marqué dans la mesure où il a pris la décision de travailler sur les religions, de voir... l'importance de la religion pour les cultures différentes. Mais Reza a quitté l'Iran effectivement après la révolution de 1979 et il a pour moi, à mon avis, il continue à tourner autour de l'Iran pour pouvoir un jour, encore une fois, retourner en Iran et reprendre le sujet qu'il a laissé en suspens il y a 30 ans.
C'est-à-dire que sans l'absence de Abbas et compagnie, si j'ose dire, on a eu les photos sauvages pour juin 2009, qui sont très très impressionnantes. Ces photos, alors la prise à partir même des portables sur toutes les manifestations de protestation à Téhéran et dans les villes iraniennes, et oui, la répression que cela a suscité pour ceux qui ont contesté la légitimité des élections présidentielles.
Mais c'est-à-dire qu'après les élections de juin 2009, tous les reporters étrangers ont été renvoyés chez eux et les Iraniens ont été interdits de travail. Donc il n'y a pas eu de photos prises par les
photos sauvages, donc.
Ce sont les citoyens qui se sont substitués en photographes.
Vous en montrez quelques photos, d'ailleurs.
La Monnaie de Paris a pris la décision de montrer quelques images réalisées par quelqu'un qui a un inconnu, en fait, qui a envoyé ces images. Et on va effectivement voir, je n'ose pas dire de belles images, mais des images intéressantes sur les événements récents.
Anaïta Gamayam et Tehadi, un tout dernier mot, parce que nous arrivons en fin d'émission, sur l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la photographie artistique, d'intention, avec en même temps une dimension critique très forte, et l'étonnante et la fécondité de la créativité des femmes dans ce secteur.
Mais je pense que ce sont elles qui sont le plus sous pression et elles extériorisent de cette manière, très probablement. Pour dire un mot sur la photographie plasticienne artistique en Iran, il faut savoir qu'elle est apparue à la fin des années 90 avec l'arrivée au pouvoir du président Khatami, qui a supprimé plus ou moins la censure, qui a permis à la presse à de nouveaux titres de voir le jour. Et donc la jeunesse iranienne, je dirais la troisième génération d'Iraniens, n'a plus les mêmes préoccupations que la première. Il n'y avait plus de guerre, plus de révolution. Donc voilà, les gens se sont plutôt préoccupés d'eux-mêmes. Ils ont retourné l'appareil photo vers eux-mêmes. Il y a eu beaucoup plus de photographies intimistes, beaucoup de questions sur leur identité. Et voilà. Donc,
Yves Le Fur, le grand cinéaste iranien Kiarostami, est aussi photographe. Et il dit que la photographie n'a pas de son et la photographie ne raconte pas, pour dire qu'elle est peut-être différente du cinéma. Déjà, son cinéma est contemplatif. Et en disant cela, il convie à ce qu'on soit, à ce que chaque photographie présente un temps de méditation et de contemplation. Vous participez, quand vous voyez des photos de Kiarostami, son intention?
Oui, bien sûr, c'est à la fois un temps suspendu et plus qu'un témoignage, mais la force du témoignage, elle existe quand même. Et ce qu'on cherche à mettre en valeur, c'est surtout sa grande dimension poétique.
Merci Anaïta Gabayan, merci Yves Le Sur pour toutes ces paroles autour de ces événements centrés sur la photographie dans de multiples lieux parisiens. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb, technique Anil Bosley, coordination Dominique Compétissa, réalisation François Connac. Merci à eux trois.